Préface. Les ruines elles-mêmes du monde grec nous enseignent de quelle façon la vie dans notre monde moderne pourrait nous être rendue supportable. Richard Wagner. L'érudit Prodicos de Céos, qui florissait vers la fin du 5e siècle avant notre ère, est l'auteur du célèbre apologue que saint Basile recommandait aux méditations chrétiennes, Héraclès entre la vertu et la volupté. Nous savons qu'Héraclès opta pour la première, ce qui lui permit d'accomplir un certain nombre de grands crimes contre les biches, les amazones, les pommes d'or et les géants. Si Prodicos s'était borné là, il n'aurait écrit qu'une fable d'un symbolisme assez facile. Mais il était bon philosophe, et son recueil de contes, Les Heures, divisé en trois parties, présentait les vérités morales sous les divers aspects qu'elles comportent selon les trois âges de la vie. Aux petits enfants, il se plaisait à proposer en exemple le choix austère d'Héraclès. Sans doute aux jeunes gens, il comptait le choix voluptueux de Paris. Et j'imagine qu'aux hommes mûrs, il disait à peu près ceci. Odysseus errait un jour à la chasse au pied des montagnes de Delphes quand il rencontra sur sa route deux vierges qui se tenaient par la main. L'une avait des cheveux de violette, des yeux transparents et des lèvres graves. Elle lui dit « Je suis Arete ». L'autre avait des paupières faibles, des mains délicates et des seins tendres. Elle lui dit « Je suis Triphée ». Et toutes deux reprirent « Choisis entre nous ». Mais le subtil Odysseus répondit sagement « Comment choisirais-je? Vous êtes inséparables. Les yeux qui vous ont vu passer l'une sans l'autre n'ont surpris qu'une ombre stérile. De même que la vertu sincère ne se prive pas des joies éternelles que la volupté lui apporte, de même la mollesse irait mal sans une certaine grandeur d'âme. Je vous suivrai toutes deux. Montrez-moi la route. » Aussitôt qu'il eut achevé, les deux visions se confondirent et Odysseus connut qu'il avait parlé à la grande déesse Aphrodite. Le personnage féminin qui occupe la première place dans le roman qu'on va feuilleter est une courtisane antique, mais, que le lecteur se rassure, elle ne se convertira pas. Elle ne sera aimée ni par un moine, ni par un prophète, ni par un dieu. Dans la littérature actuelle, c'est une originalité. Courtisane, elle le sera avec la franchise, l'ardeur et aussi la fierté de tout être humain qui a vocation et qui tient dans la société une place librement choisie. Elle aura l'ambition de se lever au plus haut point. Elle n'imaginera même pas que sa vie ait besoin d'excuses ou de mystères. Ceci demande à être expliqué. Jusqu'à ce jour, les écrivains modernes, qui se sont adressés à un public moins prévenu que celui des jeunes filles et des jeunes normaliens, ont usé d'un stratagème laborieux dont l'hypocrisie me déplaît. « J'ai pas la volupté telle qu'elle est, disent-ils, afin d'exalter la vertu. » En tête d'un roman dont l'intrigue se déroule à Alexandrie, je me refuse absolument à commettre cet anachronisme. L'amour, avec toutes ses conséquences, était, pour les Grecs, le sentiment le plus vertueux et le plus fécond en grandeur. Ils n'y attachèrent jamais les idées d'impudicité et d'immodestie que la tradition israélite a importées parmi nous avec la doctrine chrétienne. Hérodote nous dit très naturellement « Chez quelques peuples barbares, c'est un opprobre que de paraître nu. » Quand les Grecs ou les Latins voulaient outrager un homme qui fréquentait les filles de joie, ils l'appelaient « moechus », ce qui ne signifie pas autre chose qu'adultère. Un homme et une femme qui, sans être engagés d'aucun lien par ailleurs, s'unissaient, fût-ce en public et quelle que fût leur jeunesse, étaient considérés comme ne nuisant à personne et laissés en liberté. on voit que la vie des anciens ne saurait être jugée d'après les idées morales qui nous viennent aujourd'hui de Genève. Pour moi, j'ai écrit ce livre avec la simplicité qu'un Athénien aurait mise à la relation des mêmes aventures. Je souhaite qu'on le lise dans le même esprit. À juger les Grecs anciens d'après les idées actuellement reçues, pas une seule traduction exacte de leurs plus grands écrivains ne pourrait être laissée aux mains d'un collégien de seconde. Si M. Monet-Sully jouait son rôle d'Édipe sans coupure, la police ferait suspendre la représentation. Si M. le comte de Lille n'avait pas expurgé Théocrite par prudence, sa version eût été saisie le jour même de la mise en vente. On tient Aristophane pour exceptionnel, mais nous possédons des fragments importants de 1440 comédies dues à 132 autres poètes grecs, dont quelques-uns tels qu'Alexis, Philétaire, Stratis, Euboule, Cratinos, nous ont laissé d'admirables vers et personne n'a encore osé les traduire. On cite toujours, en vue de défendre les mœurs grecques, l'enseignement de quelques philosophes qui blâmaient les plaisirs sexuels. Il y a là une confusion. Ces rares moralistes réprouvaient les excès de tous les sens indistinctement, sans qu'il y eût pour eux de différence entre la débauche du lit et celle de la table. Tel aujourd'hui qui commande impunément un dîner de 6 louis pour lui seul dans un restaurant de Paris, eût été jugé par eux aussi coupable, et non pas moins, que tel autre qui donnerait en pleine rue un rendez-vous trop intime et qui, pour ce fait, serait condamné par les lois en vigueur à 1 an de prison. D'ailleurs, ces philosophes austères étaient regardés généralement par la société antique comme des fous malades ou dangereux. On les bafouait sur toutes les scènes, on les rouait de coups dans la rue, les tyrans les prenaient pour bouffons de leur cour et les citoyens libres les exilaient quand ils ne les jugeaient pas dignes de subir la peine capitale. C'est donc par une supercherie consciente et volontaire que les éducateurs modernes, depuis la réforme jusqu'à l'heure actuelle, ont représenté la morale antique comme l'inspiratrice de leurs étroites vertus. Si cette morale fut grande, si elle mérite en effet d'être prise pour modèle et d'être obéie, c'est précisément parce que nul n'a mieux su distinguer le juste de l'injuste selon un critérium de beauté, proclamer le droit qu'a tout homme de rechercher le bonheur individuel dans les limites où il y est borné par le droit semblable d'autrui, et déclarer qu'il n'y a sous le soleil rien de plus sacré que l'amour physique, rien de plus beau que le corps humain. Telle était la morale du peuple qui a bâti l'Acropole. Et si j'ajoute qu'elle est restée celle de tous les grands esprits, je ne ferai que constater la valeur d'un lieu commun, tant il est prouvé que les intelligences supérieures d'artistes, d'écrivains, d'hommes de guerre ou d'hommes d'État n'ont jamais tenu pour illicite sa majestueuse tolérance. Aristote débute dans la vie en dissipant son patrimoine avec des femmes de débauche. Sappho donne son nom à un vice spécial. César est le Moïcus Calvus. Mais on ne voit pas non plus Racine se garder des filles de théâtre, ni Napoléon pratiquer l'abstinence. Les romans de Mirabeau, les vers grecs de Chénier, la correspondance de Diderot et les opuscules de Montesquieu égalent en hardiesse l'œuvre même de Catulle. Et de tous les auteurs français, le plus austère, le plus saint, le plus laborieux, Buffon, veut-on savoir par quelle maxime il entendait conseiller les intrigues sentimentales ? Amour, pourquoi fais-tu l'état heureux de tous les êtres et le malheur de l'homme ? C'est qu'il n'y a dans cette passion que le physique qui soit bon et que le moral n'en vaut rien. D'où vient cela ? Et comment se fait-il qu'à travers le bouleversement des idées antiques, la grande sensualité grecque soit restée comme un rayon sur les fronts les plus élevés ? C'est que la sensualité est la condition mystérieuse, mais nécessaire et créatrice, du développement intellectuel. Ceux qui n'ont pas senti jusqu'à leurs limites, soit pour les aimer, soit pour les maudire, les exigences de la chair, sont par là même incapables de comprendre toute l'étendue des exigences de l'esprit. De même que la beauté de l'âme illumine tout un visage, de même la virilité du corps féconde seule le cerveau. La pire insulte que Delacroix sut adresser à des hommes, celle qu'il jetait indistinctement aux railleurs de Rubens et aux détracteurs d'Ingres, c'était ce mot terrible, « eunuque ». Mieux encore, il semble que le génie des peuples, comme celui des individus, soit d'être avant tout sensuel. Toutes les villes qui ont régné sur le monde, Babylone, Alexandrie, Athènes, Rome, Venise, Paris, ont été par une loi générale d'autant plus licencieuses qu'elles étaient plus puissantes, comme si leur dissolution était nécessaire à leur splendeur. Les cités où le législateur a prétendu implanter une vertu artificielle étroite et improductive se sont vues, dès le premier jour, condamnées à la mort totale. Il en fut ainsi de Lacédémone, qui, au milieu du plus prodigieux essor qui ait jamais élevé l'âme humaine entre Corinthe et Alexandrie, entre Syracuse et Milet, ne nous a laissé ni un poète, ni un peintre, ni un philosophe, ni un historien, ni un savant, à peine le renom populaire d'une sorte de Bobbio qui se fit tuer avec 300 hommes dans un défilé de montagne sans même réussir à vaincre. Et c'est pour cela qu'après 2000 années, mesurant le néant de la vertu spartiate, nous pouvons, selon l'exhortation de Renan, maudire le sol où fut cette maîtresse d'erreurs sombres et l'insulter parce qu'elle n'est plus. Verrons-nous jamais revenir les jours d'Éphèse et de Cyrène ? Hélas, le monde moderne succombe sous un envahissement de laideur. Les civilisations remontent vers le nord, entrent dans la brume, dans le froid, dans la boue. Quelle nuit ! Un peuple vêtu de noir circule dans les rues infectes. À quoi pense-t-il ? On ne sait plus. Mais nos 25 ans frissonnent d'être exilés chez des vieillards. Du moins, qu'il soit permis à ceux qui regretteront pour jamais de n'avoir pas connu cette jeunesse enivrée de la terre, que nous appelons la vie antique, qu'il leur soit permis de revivre par une illusion féconde au temps où la nudité humaine, la forme la plus parfaite que nous puissions connaître et même concevoir, puisque nous la croyons à l'image de Dieu, pouvait se dévoiler sous les traits d'une courtisane sacrée devant les 20 000 pèlerins qui couvrirent les plages d'Éleusis, où l'amour le plus sensuel, le divin amour d'où nous sommes nés, était sans souillure, sans honte et sans péché. Qu'il leur soit permis d'oublier 18 siècles barbares, hypocrites et laids, de remonter de la mare à la source, de revenir pieusement à la beauté originelle, de rebâtir le grand temple au son des flûtes enchantées et de consacrer avec enthousiasme au sanctuaire de la vraie foi leur cœur toujours entraîné par l'immortelle Aphrodite. Pierre Louis.